Bonjour ou rebonjour à toutes et tous, il est 15h, vous retrouvez les petits éclats de lire, nous sommes en compagnie de Michel et Claudine. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Donc nous sommes tout à fait contents de vous retrouver. Nous avons donc eu notre comité de lecture à la librairie Le Poivre d'Âne cette fois, parce qu'une fois sur deux, au lieu d'être dans notre bureau de la MJC, nous sommes à la librairie du Poivre d'Âne. Nous avons d'excellents rapports avec l'autre librairie, mais qui est un peu petite. Donc tout le monde est invité à participer à ces bons moments de lecture, de présentation d'albums récents. Donc cette fois, la pêche a été très bonne, puisque nous avons 4 coups de cœur et 2 livres très intéressants. Donc voilà, nous allons commencer. Le premier livre est pour les tout petits, c'est un petit album cartonné à trous, qui s'appelle « La boule de neige », ça va bientôt être la saison, de Giuliano Ferri, chez Mine Édition. Alors, c'est une petite souris, bien habillée, charmante, qui remonte la pente de la montagne en poussant une boule de neige. « Oh, elle est trop petite, ma boule de neige », constate-t-elle. Et la boule est symbolisée par un trou rond à peine plus gros qu'un confetti dans un paysage hivernal. La souris a une vraiment magnifique écharpe bicolore bien chaude. « Je vais la faire grossir !»« Tu viens m'aider ?» demande-t-elle au chat montagnard, lui aussi tiré à 4 épingles. Et les voilà qui poussent la boule qui grossit. « Ah, que c'est dur ! Aide-nous !» Sur la pente, un cochon rose, avec un chapeau de forme, une queue de pie, un nœud papillon, apporte volontiers son aide. Ouf ! Enfin ! Ils sont arrivés en haut de la montagne. Sur l'autre versant, un lapin s'apprête à grignoter une carotte. Oh ! Et la souris est grimpée sur la boule géante, mais elle est entraînée dans la descente. Oh là là, non, au secours ! La boule tient presque toute la page. On aperçoit juste de chaque côté des petits morceaux de chaque personnage. Splash ! La boule a explosé. Et c'est maintenant un gros tas de neige avec un chapeau par-ci, une canne par-là, une carotte, un sac, une écharpe. Ben, et maintenant, on fait quoi? Un bonhomme de neige, bien sûr. Tous les éléments sont là. Oh, il est magnifique. Et les 4 personnages, toujours fins et délicats, sont de vraies gravures de mode. Ce petit album, sur fond bleu et blanc, avec de délicieux petits dessins rétro, est un petit régal pour les tout-petits et leurs parents. Voilà, « La boule de neige » de Giuliano Ferri, chez Mine Édition.
Voilà, je vais vous présenter « Qui donc a vu passer le chat ?» de Ramadier et Bourgeot. Cédric Ramadier est un illustrateur originaire de Toulouse. Il a fait ses études d'art à Londres. Il devient directeur artistique, graphiste et éditeur de livres pour la jeunesse. Mais il écrit aussi les textes de certains livres. C'est donc lui qui est l'auteur de « Qui donc a vu passer le chat ?» Vincent Bourgeot est un contemporain de Cédric Ramadier, venu de Belgique. Il a toujours dessiné et raconté des histoires pour les enfants. Il est maintenant installé à Marseille et ses livres sont édités le plus souvent par l'École des loisirs dans la collection Loulou et compagnie, comme celui-là. Qui donc a vu passer le chat est un livre cartonné de la forme d'un magnifique chat roux. Il s'adresse à tous les enfants de 0 à 3 ans. Qui donc a vu passer le chat ? La porte n'était pas fermée. Il est entré en longeant les murs nonchalamment. Il a senti le pipi déposé sur la roue du vélo. Il a touché du museau le parapluie encore humide. Il a frotté son dos contre le manteau et il est parti. Qui donc a vu passer le chat ? Il a fait vaciller une ampoule abandonnée. Il a fait sonner deux bouteilles l'une contre l'autre. Il a grimpé sur le tonneau à la bonne odeur de bois. Il a farfouillé dans la caisse à outils. Et il est parti. Qui donc a vu passer le chat ? Il est resté quelques instants sur la chaise en bois. Il a fureté sous la bibliothèque. Il a reniflé le thé sans le laper. Il a sauté sur le canapé et il est parti. Qui donc a vu passer le chat ? Il a frotté son poil contre le four encore tiède. Il a donné un coup de langue au robinet. Il a croqué de petites miettes sur le plan de travail. Il s'est promené sur la table autour des fruits et il est parti. Qui donc a vu passer le chat ? Il a donné quelques coups de patte à des billes pour les regarder rouler. Il a joué avec un serpent en tissu. Il s'est blotti en boule sur le lit et a fermé les yeux. Il s'est frotté dans les rideaux en ronronnant. Et il est parti. Qui donc a vu passer le chat ? Il a sursauté quand la machine à laver s'est mise à vibrer. Il s'est enfoui dans le panier de linge. Il a reniflé l'odeur du dentifrice sur les brosses. Il a léché le savon, mais ce n'était pas bon. Et il est parti. Qui donc a vu passer le chat ? Il a poussé du museau le crayon à papier. Il est resté quelques instants assis sur le fauteuil. Il a regardé à l'intérieur des chaussures. Il s'est étiré sur le couvre-lit et il est parti. Qui donc a vu passer le chat ? Il a fait ses griffes sur le vieux tapis. Il est presque tombé en escaladant les chaises empilées. Il a joué avec les pelotes de laine poussiéreuse. Il a éternué et il est parti. Qui donc a vu passer le chat ? Il a regardé par la fenêtre grande ouverte. Il a bondi sur le toit. Il a apprécié le soleil couchant. Il a retrouvé sa petite amie. Et il est parti pour la nuit. C'est donc un livre qui chante sa petite chanson à chaque page. Qui donc a vu passer le chat ? Puis il est parti. C'est un livre qui s'adresse au bébé aventurier qui explore la maison pièce après pièce avec le chat jamais très loin puisqu'on voit sa queue à chaque fois, à chaque page. Et je pense que c'est un livre qu'on va raconter plusieurs fois de suite pour retrouver le chat. Encore, encore, je suis sûre qu'on va l'entendre.
Alors, notre prochain album s'appelle Le Plouf de Guillaume Olive et Zi Hong aux éditions Les Éléphants. Alors, sur la couverture de cet album plus large que haut, une douzaine d'animaux sauvages semblent être poursuivis et galopent à perdre haleine. Alors, ça commence tranquillement. La forêt s'éveillait paisiblement pour saluer le matin naissant. Et le lapin flânait sur les berges de la rivière, émerveillé par les fleurs qui l'entouraient. Il sautillait et gambadait lorsque tout à coup, un énorme bruit retentit. Plouf ! Les illustrations à l'aquarelle, délicates et précises, rendent bien cette atmosphère paisible jusqu'au plouf ! Terrifié, le petit lapin détale en criant à tue-tête « Au secours, voilà le plouf !» Dans sa course, il croisa un renard. « Pourquoi cours-tu ainsi ?» Le lapin, sans s'arrêter, répondit entre deux bonds « Sauve-toi vite, voilà le plouf !» Alors le renard, pris de peur, déguerpit en hurlant avec lui « Sauvons-nous, voilà le plouf !» Et ils entraînent successivement au fil des pages un singe, un zèbre, un éléphant, la girafe, l'ours et la panthère, puis le daim, l'hippopotame et le lion, qui tous hurlaient « Sauvons-nous, voilà le plouf !» Mais soudain, ils tombèrent nez à nez avec le tigre qui leur barra la route. « Ben, que se passe-t-il ? Qu'avez-vous à bondir dans tous les sens ?» « Le plouf arrive, sauve-toi vite !» répondit alors le lion haletant. « Le plouf ? Mais qui est-ce ? Je l'ignore, dit le lion. C'est l'hippopotame qui m'a mis en garde. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais c'est la girafe qui m'en a parlé. Et ainsi de suite, ils se rejettent tous l'histoire jusqu'au lapin. Nous ferions mieux de voir à quoi il ressemble, proposa alors le tigre, avant de décider si nous devons fuir à son approche. Le lapin guida alors les animaux jusqu'à la berge où il avait entendu l'épouvantable plouf. Au même instant, une papaye tomba dans l'eau. Plouf ! Et on comprend alors là les illustrations des pages de Garde où on a cru voir des larmes dorées à pleine page. Ben voilà, c'était des papayes. Et le papayer est aussi appelé arbre à melon. Donc une papaye qui tombe, effectivement, ça doit faire un très gros plouf. Donc voilà, c'est pour les enfants à partir de 3 ans et plus, parce que c'est vraiment amusant. Hein. Guillaume Olive et Zihong aux éditions Les Éléphants. Le plouf.
Le bunip de Jenny Wagner. Le bunip, ça s'écrit B-U-N-Y-I-P. Jenny Wagner est une Australienne, auteure de livres illustrés pour les enfants, et elle vit aujourd'hui dans une ferme du Queensland. Ron Brooks, à ne pas confondre avec le footballeur du même nom, est Australien lui aussi. Il a grandi dans un village rural avant de venir étudier l'art à Melbourne et il vit aujourd'hui entre New York et l'Australie. Le bunip, c'est une créature de la mythologie aborigène australienne. C'est un mot qui vient de la langue des aborigènes du sud-est de l'Australie. Son nom, ses attributs physiques varient de tribu en tribu. Les Européens, à partir du 19e siècle, font des descriptions de cette créature. Et au 20e siècle, aujourd'hui, le bunip inspire toujours des émissions pour enfants, des chanteurs, des jeux vidéo. On peut dire que le bunip est toujours bien vivant. Mais qui est-il ? C'est le thème de ce livre. Alors, le bunip, c'est un livre donc qui est paru aux éditions Thierry Magnier. Les illustrations sont, me semble-t-il, apparentées avec l'art aborigène, avec des petites touches de couleurs qui rendent ce livre tout à fait intéressant au niveau des images. Une nuit, très tard, sans raison aucune, quelque chose bougea dans la boue noire au fond du ruisseau. Les poissons s'éloignèrent, effrayés, et dans les arbres, les oiseaux de nuit cachèrent leurs têtes sous leurs ailes. Quand ils se risquèrent à regarder de nouveau, une chose très grande et couverte de boue était assise au bord du ruisseau. « Qui suis-je » murmurait-elle. « Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ?» À nouveau, les oiseaux de nuit cachèrent vite leur tête sous leurs ailes. Au matin, la chose était encore assise là, occupée à gratter la boue pour découvrir ce qu'elle était dessous. « Qui suis-je ? » continuait-elle à demander. « Qui suis-je ? » Mais les oiseaux de la nuit s'étaient endormis. Un ornithorynque qui passait par là résolut le problème. « Tu es un bunip !» lui dit-il. « Bunip ? » murmura-t-il content. « Bunip ? » Alors il se redressa et s'écria. « De quoi ai-je l'air ?» Mais l'ornithorynque avait déjà plongé dans le ruisseau. « Suis-je beau ?» demandait le bunip. « Suis-je beau ?» Mais personne ne lui répondit. Et le bunip resta assis là, perdu dans ses pensées. Bientôt arriva un wallaby qui venait boire au ruisseau. « À quoi ressemblent les bunips ?» demanda le bunip. « Ils sont horribles !» répondit le wallaby. « Ils ont des pattes palmées et des plumes. »« De grandes et belles plumes ?» demanda le bunip enthousiaste.
« Oh non, des plumes horribles !» dit le wallaby sûr de lui.
Il termina de boire et s'éloigna d'un bond.
De jolies pattes palmées ! Cria le bunip. Il n'y avait plus personne. Le bunip soupira et s'éloigna à la recherche de quelqu'un pour lui répondre. Quelque chose bougea dans les fourrés avoisinants et soudain en jaillit un émeu. « Attends !» cria le bunip en s'élançant derrière lui. « À quoi ressemblent les bunips ?» L'émeu s'arrêta pour réfléchir. Et il répondit finalement « Ils ont des poils et des queues. »« Combien de queues ?» demanda le bunip. « Une par bunip. » « De grandes et belles queues ?» demanda le bunip. « Non, d'horribles queues, » dit l'émeu, « et des poils encore plus laids. » Le bunip continua à marcher le long du ruisseau. « Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire à quoi ressemblent les bunips ?» demandait-il avec tristesse. Mais personne ne répondait. Un peu plus loin, sur la berge, il rencontra un homme. L'homme était occupé à prendre des notes sur un carnet et il ne regarda pas le bunip. « Chut !» lui dit-il. « Je suis occupé. » Le bunip attendit un long moment, puis il posa sa question lentement et clairement. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire à quoi ressemblent les bunips ?»«
Oui, » dit l'homme sans lever les yeux vers lui.
« Les bunips ne ressemblent à rien. »«
À rien ?» demanda le bunip.
« À rien du tout, » répondit l'homme. « Vous êtes sûr ?» insista le bunip.
« Absolument certain, » dit l'homme en le regardant sans le voir. « Les bunips n'existent pas. »
Le bunip resta abasourdi, puis il poussa un long et profond soupir. « Quel dommage » murmura-t-il. « Quel dommage, quel dommage !» Et il retourna à la rivière. Il sortit ses affaires de l'eau, les fourra dans son sac de bunip et se remit en marche. Personne ne le vit s'en aller. Le bunip marcha toute la journée. Et alors que le soleil se couchait, il arriva à une mare calme et isolée. « Serait bien ici !» se dit-il à lui-même. « Personne ne me verra et ainsi je pourrai me sentir aussi beau que je le voudrais. » Il déballa ses affaires, posa son peigne et son miroir de bunip sur le sable et mit sa casserole sur le feu. Personne ne le vit, personne ne lui parla. Mais très tard cette nuit-là, sans raison aucune, quelque chose bougea dans la boue noire au fond de la mare. Le bunip, stupéfié, laissa échapper son peigne et écarquilla les yeux. Une chose très grande et couverte de boue était assise au bord de la mare. « Qui suis-je » murmurait-elle. « Qui suis-je ? Qui suis-je ? » Le bunip, ému, bondit. « Tu es un bunip ! » s'écria-t-il. « C'est vrai ? » demanda l'autre bunip. « Et à quoi je ressemble ? » ?»« Tu es exactement comme moi !» dit joyeusement le bunip. Et il lui prêta son miroir pour qu'il se voie. On pourrait dire peut-être que le thème de ce livre est une quête identitaire. « Qui suis-je ? Suis-je beau ?» Bien sûr, les hommes n'y comprennent rien, un petit peu comme dans Le Petit Prince. Le bunip, par ailleurs, est un grand philosophe. Il décide de vivre seul, et si personne ne le voit, il pourra se sentir aussi beau qu'il le voudra. Mais l'histoire se poursuit, et apparaît un autre bunip qui s'interroge aussi sur son identité. Cette jolie histoire nous permet de rencontrer les animaux de l'Australie lointaine. Elle s'adresse aux enfants à partir de 3 ans, mais peut-être aussi aux plus grands. Et peut-être que cela viendra répondre à leurs questions identitaires. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Voilà, c'est notre bunip qui va nous le dire.
Voilà, donc le bunip n'avait pas fait l'unanimité chez les gens présents au comité de lecture, donc nous en sommes fort surprises parce que c'est vraiment un très beau livre. Donc les autres étaient des coups de cœur, la boule de neige, le plouf et où est passé le chat. Maintenant encore un coup de cœur et notre dernier livre sera non pas un coup de cœur non plus, mais un livre extrêmement intéressant. Michel en parlera tout à l'heure. Alors celui-là, ça s'appelle « Regarde en haut ». Il est de Jim O'Chung. Et c'est un coup de cœur d'ailleurs dans les livres de rue du monde. Et ce livre vient de Corée. Donc, c'est un album plus haut que large, sur fond blanc, et la bulle du titre « Regarde en haut » est en rouge. Et les tout petits dessins sont juste dessinés au crayon noir. Donc, ce sont des petites choses qu'il faut regarder de très près, parce qu'on reconnaît des gens vus d'en haut. Page de garde, c'est très surprenant. Il faut vraiment bien regarder de près pour comprendre. Il y a des centaines de pavés carrés. Et puis, sur le côté, il y a quatre choses étranges qui, en regardant bien, sont des troncs d'arbres en hiver. Ce sont des arbres de ville, puisqu'ils ont le cercle autour qui montre qu'il y a des arbres plantés. Voilà, donc on se demande bien où on est. La famille partait en voyage. Suji était assise à l'arrière de la voiture et ce fut l'accident. Les roues de la voiture ne pouvaient plus rouler. Les jambes de Suji ne pouvaient plus marcher. Et sur la page de gauche, de tout petits dessins au crayon illustrent le texte au minimum. Page suivante, apparaissent sur la droite les pieds de Suji sur une chaise roulante. Et on comprend qu'elle se trouve très haut sur un balcon au-dessus de la rue. Alors on entend « Suji, à table, le repas est prêt ». Et à la page suivante, on voit le dessus de la tête de Suji qui est penchée pour voir. Et alors ce qu'elle voit dans la rue, ben, on dirait vraiment des fourmis. Tout en bas, les gens sont pressés, ils marchent vite. Mais il y a aussi des chiens et des enfants, une marelle, un vélo, un cerf-volant. Quand il pleut, on ne voit que le haut des parapluies. Suji regarde tranquillement, mais elle s'ennuie. Elle est toute seule. « Hé, je suis là! Est-ce que quelqu'un peut regarder en haut ?» Et rien ne se passe. Et enfin, un enfant regarde. Alors cet enfant, il aperçoit Suji. « Qu'est-ce que tu fais là-haut ? » ?»« Ben, je regarde en bas. Pourquoi ? » ?»« Parce que je suis curieuse. » »« Ben alors descends. » »« Je peux pas à cause de mes jambes. » »« Mais de là-haut, tu ne peux pas bien voir. » C'est vrai, je vois juste le dessus de la tête des gens. Ben alors, il faut faire quelque chose, dit le petit garçon. Et il trouve ce qu'il faut faire. Il s'allonge, les bras en croix, et là, Suji peut le voir effectivement tout entier. Curieusement, il n'a pas d'yeux, ce que j'ai trouvé un peu bizarre. Donc, d'autres enfants arrivent, ils posent des questions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes allongé par terre? Et d'autres enfants arrivent encore, il y en a un qui arrive avec son chien, il y en a qui dansent, mais ils s'allongent tous pour que Suji puisse les voir correctement. Donc bientôt, il y a beaucoup de monde dans la rue. Et oh, on regarde tous en haut. Donc ils sont tous en train de regarder Suji. Et même Suji regarde en haut et on ne voyait jusque-là que ses cheveux. Et là, on voit qu'elle a le sourire. Elle a enfin des gens qui communiquent avec elle. Et enfin, page suivante. Ah, sur la droite, il n'y a plus Suji. Par contre, en bas, toute petite, on voit la chaise roulante. Les arbres dont on ne voyait que les troncs noirs ont fleuri, sont des marronniers, sont roses. Et puis, au milieu de la rue, au milieu des petites silhouettes, on voit des petites taches de couleur. Il y a un cerf-volant, il y a un cycliste qui a des ballons multicolores, il y en a un qui a une serviette marron. Et à la dernière page, eh bien, les arbres sont en fleurs et il y a des pétales qui volent partout. Donc, est-ce que quelqu'un allait regarder en haut et lui parler ? La petite fille était bien triste et on voit qu'à la fin, eh bien, elle a réussi à trouver un ami et que manifestement, depuis l'hiver est passé et ses jambes ont l'air d'aller mieux puisqu'elle a pu descendre dans la rue et rencontrer enfin du monde. C'est un livre très original, On se pose vraiment des questions. Et très joli, c'est vraiment des petits dessins extrêmement fins. Et on se met à la place de la petite fille qui ne voyait que le dessus de la tête des gens. Ça devait vraiment pas être rigolo. Donc, regarde en haut, un livre coréen qui est coup de cœur de Rue du Monde. On pense qu'il est bien pour les enfants à partir de 4 ans. Donc, de Jin Ho-jung, qui doit être un monsieur coréen, nous imaginons. Voilà.
Alors, je vais vous parler de « Mon chagrin éléphant » de Cécile Roumiguer et de Maddalena Matoso. Comme l'a dit Claudine, c'est pas un livre coup de cœur, mais on a toutes pensé que c'était un livre qu'il était intéressant d'avoir dans sa bibliothèque ou qu'il était intéressant d'avoir dans notre caisse de livres. Donc, il est écrit par Cécile Roumiguer. Nous, à Éclat de lire, nous la connaissons bien. Elle est originaire du Sud-Ouest, elle a fait des études de lettres et puis elle a plongé dans l'univers du spectacle. Et avec amour, avec des mots, des images, des émotions, elle a écrit des albums, mais aussi des romans pour la jeunesse. Donc elle est venue la dernière fois, elle est venue plusieurs fois à Manosque, mais la dernière fois elle est venue dans le cadre des correspondances pour présenter son livre « Lily », qui est un livre jeunesse, pour les adolescents, et elle a aussi donc participé à une rencontre avec des jeunes et elle a fait jury dans la battle littéraire qui est resté un grand moment des correspondances. Voilà. Maddalena Matoso est une illustratrice portugaise dont je ne sais pas grand-chose, mais elle a fait des images très colorées avec des aplats de couleurs franches. Voilà. On va dire que Mon chagrin éléphant, c'est un album pour aborder avec les petits la question du deuil et du chagrin en général. C'est un livre qui est paru aux éditions Thierry Magnier. Voilà. Je vais vous le lire et après je reprendrai quelques petits passages. Alors, il est dédié par Cécile Roumiguer à Angèle C., grande ratatineuse de tarte aux pommes, et à nos grands-mères et à nos grands-pères. Depuis la mort de ma Millette, mon chagrin est grand, un véritable éléphant. Il me suit partout, tout le temps. Je me souviens très bien de la première fois où je l'ai vu, assis là, à côté de moi. C'était dans la voiture en revenant du cimetière. À l'avant, papa et maman parlaient sans faire de bruit. Ils chuchotaient des noms de gens, des noms de fleurs, des noms de rien. Jusque-là, pas d'éléphant, tout allait bien. C'est quand maman m'a regardé dans le rétroviseur sans lâcher le volant et qu'elle m'a annoncé « Mercredi, la voisine t'accompagnera au centre aéré, c'est arrangé. » Oui, c'est quand maman a prononcé ces mots « c'est arrangé » que mon chagrin éléphant a fait son apparition. Le mercredi, c'était le jour où j'allais chez Mamillette avant. Le chagrin éléphant était tranquille, assis là, il balançait sa trompe de gauche à droite en marmonnant un air de musique. Je l'ai observé sans bouger. J'ai regardé maman et papa à l'avant de la voiture. Ils n'avaient rien remarqué. J'ai demandé « Qu'est-ce que tu fais là ?» L'éléphant a posé ses yeux aux longs cils sur moi. « Tu connais cette terre, une souris verte ? Je ne le retrouve pas. Tu veux bien me le chanter ?» J'ai regardé droit devant et j'ai fredonné. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Mon chagrin éléphant a battu la mesure en hochant la tête d'un air satisfait. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit, il fait trop chaud. Et j'ai chanté, chanté. La troisième fois que j'ai repris la chanson, mon père s'est retourné. Ça suffit maintenant, tu vois pas qu'on a du chagrin, nous ? J'ai arrêté de chanter, je pouvais pas répondre que je chantais pour un éléphant assis à côté de moi, sur la banquette arrière. Je connais bien les grandes personnes, elles ne m'auraient pas cru. Et je me suis demandé ce que voulait dire papa. Est-ce que je n'avais pas de chagrin, moi, maintenant ? C'est l'éléphant qui a répondu à ma question. « Ton chagrin, c'est moi. Je suis le chagrin éléphant. Continue de chanter dans ta tête, je chante avec toi. » J'ai chanté en silence. Je la mets dans un tiroir, elle me dit « Il fait trop noir. » J'ai pensé à ma Millette cachée sous ses fleurs qui allaient bientôt faner. Elle n'aurait pas aimé ça, pas aimé du tout. L'éléphant a insisté. «
Je lui aurais bien claqué son grand nez pour qu'il me fiche la paix, mais il a secoué ses grandes oreilles et siffloté pour que je reprenne. Je la mets dans mon soulier, elle me croque le bout du pied. Je la mets dans ma culotte, elle me fait trois petites crottes. J'ai montré trois doigts à mon éléphant pour les trois petites crottes, il m'a fait un clin d'œil. Je savais pas que les éléphants savaient faire des clins d'œil. Depuis, mon chagrin éléphant est là tout le temps, avec moi. Je me suis habituée à lui. Quand je suis seule le soir dans mon lit, il me tient compagnie. Il prend toute la place et tire la couette sur lui. Alors j'ai un peu froid. Dans la journée, il est encombrant aussi. À la récré, il reste dans mes pas et empêche les autres de s'approcher de moi. Dans la classe, il balaie les conjugaisons d'un coup de trompe et je me trompe. Parfois, mon chagrin éléphant enfle, il remplit toute la pièce autour de moi. Parfois, il se fait plus petit. Est-ce qu'il disparaîtra un jour comme il est venu ? Mamillette disait toujours qu'on trouve les réponses dans les livres. Alors j'ai ouvert une encyclopédie des animaux. Les éléphants sont des grands mammifères. Ils vivent dans la savane ou dans la jungle. J'ai trouvé des éléphants à petites oreilles, d'autres à grandes oreilles, des éléphants à crâne plat, des éléphants pleins de poussière, d'autres qui se baignent dans la boue, des éléphants nains, un éléphant qui se prend pour un chat ou un chat qui se prend pour un éléphant, on ne sait pas. Des éléphants multicolores, un tout rose qui s'en mêle les pattes dans sa trompe, un éléphant roi en costume vert, un éléphant dans la jungle, une troupe entière d'éléphants dans un cirque, un éléphant volant, mais pas de chagrin éléphant. Maman s'est approchée. Elle a regardé les images avec moi. « Tu t'intéresses aux éléphants ?» J'ai refermé le livre. « Maman, si tu avais un ami encombrant, tu ferais quoi ?» Elle réfléchit en mordant sa lèvre comme elle le fait quand elle est embêtée. « Je crois que je lui trouverais un autre endroit où aller, quelque part où il serait bien. » Le dimanche suivant, on est allé au cimetière. J'avais bien préparé mon affaire. Le coffre de la voiture était rempli de bulbes, de graines, de pousses, de quoi faire naître une véritable jungle. Mon chagrin éléphant était là, un peu moins grand que d'habitude, mais imposant tout de même. Quand on a démarré, il m'a demandé de lui chanter une souris verte. Mais cette fois, j'ai chanté à tue-tête. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Et papa et maman ont chanté avec moi, ça fera un escargot tout chaud. Le chagrin éléphant a trouvé ça étrange et s'est mis à bouder. J'ai fait un clin d'œil pour le rassurer. On a planté les bulbes, les graines, les pousses. Au printemps, Mamillette aura le plus beau jardin du cimetière. Avec des fleurs qui sentent bon et lancent leur pollen dans le vent pour que d'autres fleurs poussent partout alentour. Mamillette aimerait ça, c'est sûr. Peut-être même que des oiseaux viendront nicher sur sa tombe, qui sait ? Mon chagrin éléphant a regardé notre jardinage d'un œil curieux. Il se doutait de quelque chose. Quand je lui ai murmuré que bientôt il pourrait venir s'installer là, entre les dahlias et les giroflées, il a balancé ses grandes oreilles d'un côté de l'autre de sa grande tête d'éléphant. Après ça, mon chagrin éléphant a commencé à rétrécir. Chaque jour, il devient plus petit, moins encombrant. Il disparaît de plus en plus souvent. Je suis sûre qu'il va faire un tour dans les fleurs de Mamillette. Humer une fraise des bois, un hortensia. Il est devenu si petit, désormais il tient au creux de ma main. De temps en temps, il me souffle des souvenirs de Mamillette dans l'oreille. Ses manies, sa façon de tricher, parfois quand elle joue au dé. Et quand je sens une odeur de tarte aux pommes ou d'herbe coupée, je glisse mon chagrin éléphant au creux de mon cou. On se tient chaud tous les deux, on chantonne. Une souris verte qui courait dans l'herbe, on pense à Mamillette. Et on aime ça. Voilà. Moi, j'ai pensé que c'était un livre intéressant parce qu'il parle tout à fait d'un ton très juste des événements qui se passent autour d'un deuil. Et en particulier quand le livre commence et qu'au retour du cimetière, la réalité s'impose quand le grand chagrin arrive, que les parents ne voient rien et que maman dit « Mercredi, c'est arrangé, tu iras chez la voisine. » Alors que mercredi, c'était le jour de Mamillette. C'est le « c'est arrangé » qui est une réalité insupportable qui traduit le non-retour de la situation, donc le non-retour de Mamillette, sa perte inéluctable. Et c'est bien ça qui amène le gros chagrin. L'enfant veut se rassurer en chantant une comptine très connue qui est une comptine qu'il connaît depuis sa première année, sans doute, et la nouvelle incursion des parents qui rappelle « Tu vois pas qu'on a du chagrin, nous ?» c'est la difficulté de l'adulte à penser que l'enfant peut avoir lui aussi du chagrin, et un chagrin qui peut être au moins aussi gros que celui des parents. Et ensuite, quand on voit Mamiette qui ressurgit avec ses petites habitudes, elle n'aurait pas aimé les fleurs fanées sur sa tombe. Quand ensuite il décrit qu'elle aimait les graines, elle aimait les fleurs, elle aimait tricher. Là, ce sont des souvenirs qui vont aider ce petit garçon à pouvoir garder sa mamiette au fond du cœur. Et avant, il y a aussi une image que j'ai trouvée très intéressante, c'est quand l'enfant décrit le froid de son corps. Parce qu'effectivement, quand on est en deuil, on a froid jusqu'au fond des os. Et donc l'enfant, à ce moment-là, ben, il va tirer la couette tout en ayant toujours aussi froid. Et puis, il décrit bien aussi que cet enfant envahi par le chagrin, il n'arrive plus à se concentrer à l'école. Et puis, quand sa grand-mère va l'aider en lui soufflant qu'on trouve toutes les réponses dans les livres, c'est déjà une réconciliation avec le temps qui est passé. Et c'est aussi une façon de se dire que mamie a été toujours là dans la tête du petit garçon, qu'elle est devenue un souvenir avec lequel il pourra vivre, apaisé. Et le gros éléphant est devenu tout petit comme un doudou.
Alors, on vous redonne les titres et les auteurs des livres que nous vous avons présentés. La boule de neige de Giuliano Ferri chez Ménédition pour les tout-petits.
Qui donc a vu passer le chat de Ramadier et Bourgeot chez Loulou et compagnie, aussi pour les tout-petits.
Ensuite, le plouf avec tous ces animaux qui galopent à perdre haleine de Guillaume Olive et He Zihong. Chez les éditions des éléphants.
Le Bunip de Jenny Wagner et Ron Brooks, qui nous a fait faire un petit tour en Australie, aux éditions Thierry Magnier.
Puis Regarde en haut de Jim Ho-jung, un livre venu d'ailleurs, de Corée, mais qui peut se passer dans tous les pays, chez Rue du Monde.
Et enfin, Mon chagrin éléphant de Cécile Roumiguière et Maddalena Matoso aux éditions Thierry Magnier.
Donc vous trouverez ces livres bien sûr dans toutes les bonnes librairies et je pense qu'ils seront peut-être achetés aussi par la médiathèque puisque nous avons les bibliothécaires avec nous au comité de lecture. Et nous vous donnons rendez-vous au prochain comité de lecture de décembre. C'est le premier mardi de décembre, ça sera le premier. Et la prochaine édition de Petits éclats de lire, ça sera le jeudi, donc 3 décembre. Et nous espérons vous trouver nombreux au bout du fil.
On peut dire qu'aujourd'hui, on a fait un petit tour du monde.
Voilà, on a vu des livres très différents et tous très intéressants qui nous ont beaucoup, beaucoup plu.
Donc,
voilà,
on vous dit à la prochaine fois.
Merci et à bientôt.
Merci Michel et Claudine, à très vite.